Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, Fabien Wellmann.
C'est moi.
Dès votre enfance, vous avez eu envie d'être auteur de BD. Mais en grandissant, vous êtes auto-persuadé qu'il vous fallait une orientation plus raisonnable. Allons, Fabien, personne n'est auteur de BD professionnel, vous disiez-vous. Vous entamez donc des études en école de commerce. Et une fois votre cursus terminé, vous comprenez que vous n'êtes pas vraiment à votre place. Vous avez besoin de créativité et de raconter des histoires. Vous tentez donc votre chance auprès du journal de Spirou. Bien vous en a pris, vous êtes maintenant scénariste de BD professionnel. Et cette année, vous avez au compteur le tome 55 de Spirou et Fantasio, le tome 10 de Seul, qui sort dans 15 jours avec une adaptation au cinéma en 2017.
C'est ça.
Et deux autres projets qui ont pointé le bout de leur nez dans la collection Métamorphose chez Soleil. Une BD intitulée Satanie, au parcours mouvementé, on en parlera tout à l'heure, et un recueil coquin d'entretien, L'herbier sauvage. On y appelle un chat pour ne pas le mettre au féminin, et c'est avec beaucoup de délicatesse, de respect et sans vulgarité aucune que vous transposez ces confidences sur la sexualité, et par la même occasion, disons-le, notre petit côté voyeuriste est comblé.
Quel excellent résumé, je n'ai plus rien à ajouter. Merci à tous d'être venus. Et puis on peut aller boire un coup.
Alors, comment est née cette idée de l'herbier sauvage ?
Eh bien, l'idée de l'herbier sauvage est venue d'un bilan que j'ai fait à un moment de ma carrière, de ma jeune carrière, mais enfin qui pour moi paraissait déjà un peu longue, il y a ça 5 ans à peu près. Je me suis demandé en fait, qu'est-ce que j'avais déjà écrit, qu'est-ce que je n'avais pas encore écrit, et j'ai vite constaté qu'il y avait un angle mort qui était la sexualité. C'est-à-dire que je parlais énormément de la mort. Ceux qui connaissent mon travail ne seront pas surpris, parce que dans Green Manor, mon tout premier livre, il était question d'histoires criminelles, de gens qui s'entretuent. Jolie Ténèbres, avec les auteurs duquel, les Carasquettes, j'ai fait aussi Satanie, parle d'une petite fille morte. Dans Seul, sans déflorer toute l'intrigue, il est question d'enfants qui meurent. Enfin bon, bref, c'était un peu un leitmotiv chez moi, et ça a commencé à poser question, à me poser question, en plus de ma famille. Hein, ça faisait un bout de temps qu'il se faisait des soucis pour moi, mais là, ça se voyait. Et donc, je me suis dit, c'est marrant parce que je parle beaucoup de Thanatos, pas du tout d'Eros. Et de manière très analytique, je me suis dit, mais comment ça se fait ? Pourquoi j'ai cet angle mort ? Alors, j'ai analysé, parce que j'analyse toujours beaucoup les choses, trop. Et je me suis dit, c'est sans doute un excès de pudeur. C'est peut-être pour ne pas affecter ma famille, parce que quand même, s'il y a un livre, disons, pornographique ou érotique sous son nom, quand ce n'est pas un nom d'emprunt ou un nom, un pseudo, ça engage quand même ma famille, dans le cas présent, toute la famille Wellmann en Savoie. Et puis je me suis rendu compte que c'était un peu ça, mais pas que, et qu'en fait le frein essentiel, c'était que j'avais peur de rien avoir d'intéressant à dire, et que si j'abordais l'érotisme dans un de mes livres, d'abord je pensais vraiment à la fiction, faire une fiction érotique, j'avais très très peur de ne parler que de mes fantasmes. Donc là, le problème de la pudeur ressortait, et puis au-delà de la pudeur, de me dire mais mes fantasmes, ils sont peut-être pas très intéressants en fait. Non seulement je serais mal à l'aise, mais en plus j'aurais pas forcément apporté grand chose à l'édifice de l'érotisme. Et donc, à force de tourner autour du sujet, j'ai fini par me dire, mais le plus intéressant, en réalité, théoriquement, ça serait de demander aux gens quelles sont leurs visions plurielles de la sexualité. Et donc, c'est de ce constat que j'ai commencé à me dire, comment je pourrais inventer un procédé qui me permettrait d'avoir accès à ces informations, sachant que je ne savais pas du tout au départ si ce serait possible de faire parler les gens de sexualité, et que donc, au début, ça a été un peu compliqué, en fait.
Alors justement, comment est-ce que vous avez abordé ces personnes pour leur faire parler de leur intimité ?
Alors j'avais un grand imperméable, j'attendais la nuit au coin des rues avec un air pervers. Bon voilà, j'ai fait à peu près l'antithèse de tout ça. C'est-à-dire que j'essayais de prendre mon air le plus avenant, le plus candide. Je continue à jouer cette carte de la fausse candeur en faisant genre « bon voilà, je suis intéressé par le sujet, je n'y connais rien ou presque ». Est-ce que vous accepteriez de m'en parler de manière sincère en sachant que je ne vous jugerai pas ? Voilà, ça c'est quand même l'argument principal. C'est ma curiosité alliée à une absence totale de jugement. Et je précise, maintenant que c'est un peu rodé, je précise que cette absence de jugement, elle est de deux côtés extrêmes. Du côté de l'excentricité, des fétichismes bizarres et outranciers, là je ne juge pas. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut me raconter des choses folles, ça m'intéresse, c'est un sujet comme un autre. Mais je ne juge pas non plus l'absence de sexualité. Ce qu'il a fallu que j'explique un peu plus, parce qu'en fait, les premières personnes qui sont venues me voir quand j'ai commencé à évoquer un peu le projet étaient des gens qui, spécifiquement, avaient une sexualité débridée, en me disant, puisqu'il écrit sur la sexualité, ma vie tout à fait fantastique l'intéressera. Alors c'est vrai, hein, c'était super intéressant, je ne vais pas me plaindre d'avoir eu des gens avec des sexualités excentriques, mais il me manquait tout un pan de ce que je cherchais. Et alors, voilà, le problème, c'est que je ne savais pas ce que je cherchais, mais que je voulais sortir des sentiers battus. C'est pour ça que j'ai eu envie d'appeler ça l'herbier sauvage, comme l'idée d'un chemin buissonnier, des herbes folles qu'on va chercher. Je savais juste que je ne trouvais pas exactement ce que je cherchais dans la presse où on parle de ce genre de choses. Je pense en particulier à la presse féminine, un peu masculine maintenant. Il y a des articles dans Elle, par exemple, que je trouve très bien faits, des petits portraits de femmes. Mais il y avait quelque chose dans ces portraits qui ne me satisfaisait pas complètement et je ne savais pas dire pourquoi. Ils étaient bien faits, ils étaient instructifs, mais il manquait un truc. C'est pas non plus que j'avais pu voir ça et là dans des courriers, style courrier des lecteurs de Union, si vous êtes lecteur ou lectrice de cette prose tout à fait intéressante, mais qui est en général, maintenant je m'en rends compte, c'est une prose qui est écrite par les rédacteurs de Union, la plupart du temps, qui fait croire à un courrier des lecteurs, mais qui en fait ne l'est pas très souvent, et qui est très très axé sur des fantasmes. Et pourquoi pas, mais c'était trop dans un autre sens. Donc ce que je cherchais, je ne le connaissais pas. Et c'est ça qui a rendu le début du procédé compliqué. Parce que je disais aux gens, vous allez me raconter des choses, mais je ne peux pas vous dire ce qui m'intéressera. Or, il s'avère que c'est précisément ça qui est intéressant. C'est que je ne sache pas ce que je vais trouver. Et donc, quand des gens arrivent avec un excès de sexualité, une outrance, des histoires incroyables, je les écoute avec beaucoup d'intérêt, mais ce n'est pas forcément les premières histoires qu'ils vont me raconter qui m'intéresseront. Pour donner un exemple un peu marqué de ce que ça pourrait donner. Donc une jeune femme me raconte un plan à trois. Alors, c'est super, j'adore qu'on me raconte un plan à trois. Il se trouve que ce n'était pas le premier qu'on me racontait, donc il y avait même une sorte de vague lassitude, un peu snob, du style « Oh, encore une histoire de plan à trois, c'est tellement lassant !» Bon, en fait, c'est toujours intéressant, mais quand même, il y avait ce côté « Bon, on me l'a déjà raconté. » Ce qui est faux, hein, on ne raconte jamais de la même manière. Et au fur et à mesure qu'elle me raconte cette histoire, dont elle pensait que c'est ce qui m'intéressait le plus, je me rends compte qu'elle fait référence au fait qu'elle a déjà eu des expériences lesbiennes ou bisexuelles. Et en tirant cette ficelle-là, je finis par aboutir à une histoire beaucoup plus forte, à mes yeux, qui se passait quand elle était enfant et qui a donné un récit de l'herbier sauvage de ce premier album qui s'appelle 12 ans, qui est pour moi un des plus beaux récits, en fait. Parce que là, j'avais accès d'un seul coup à une personne qui me parle de son enfance, qui me parle de sa sexualité à l'âge de 12 ans, ce qui est quand même un accès à une forme de sexualité qui est très rare. Enfin, d'ailleurs, moi, je n'irai jamais, bien entendu, ça paraît clair, mais je le redis, je ne vais jamais interroger des mineurs. Par contre, que des adultes me parlent de leur sexualité quand ils étaient enfants, là, rien ne m'empêche de le faire. Au contraire, je trouve ça hyper intéressant, sachant que de toute façon, mes lecteurs sont des adultes. Je précise cette notion adulte-enfant, parce que chez moi, ça a été un vrai frein. Je reviens un peu en arrière au fait d'écrire le projet. C'est parce que je suis connu plutôt pour des bandes dessinées pour enfants. Je pense à la série Seul que tu évoquais, à Spirou, qui est plutôt du grand public. Et j'avais très, très peur. Je continue d'ailleurs à avoir une petite appréhension. J'avais peur d'amalgame qui serait fait entre le fait que j'écris pour la jeunesse d'un côté et que de l'autre, j'écrirais d'odieuses histoires érotiques. J'avais en tête quand même le précédent de Tommy Ungerer, incroyable illustrateur que j'espère vous connaissez. En tout cas, son livre Les Trois Brigands est un des plus célèbres, mais qui est aussi réputé pour des dessins pornographiques. Alors là, pour le coup, très pornographique, à tendance SM. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est quand même assez cash, qui lui avait valu, quand ça s'était su aux États-Unis, d'être blacklisté dans les librairies de tous les États-Unis. Alors on parle de la fin des années 60, début 70, mais il n'empêche que j'avais un peu peur, à un moment donné, de cet amalgame. Je précise donc, après cette parenthèse, que je fais donc très 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 attention à n'interroger que des majeurs, mais qui peuvent me parler de leur enfance. Dans le cas présent, 12 ans, c'est une histoire d'amour lesbien, mais à 12 ans, entre deux jeunes filles, mais c'est aussi une histoire d'amour tout court, et c'était beaucoup plus intéressant, à ce moment-là du récit, en tout cas à mes yeux, que le plan A3 qui était raconté. Pas forcément parce qu'il y a un sentiment amoureux qui rendra la chose plus noble. Je ne mets pas du tout de jugement de valeur au départ sur le fait qu'une histoire est belle ou pas belle parce qu'il y aurait des sentiments ou pas. Ça, je tiens à le préciser quand même. Une histoire peut être très belle avec des sentiments, elle peut être très belle avec quelque chose de très pornographique. Et puis, qu'est-ce que j'appelle très belle ? Qu'on en revient à ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'une histoire va me toucher ? C'est qu'elle a créé une émotion. Voilà, maintenant, je peux juste résumer ça. L'émotion, elle peut bien entendu être érotique, je peux être excité par ce qui m'est raconté. Mais ce n'est pas forcément l'intérêt. Je pense que ce livre, L'herbier sauvage, maintenant, je n'arrive plus. Au début, je le disais, maintenant, je ne le dis plus. Je ne peux plus appeler ça un livre érotique. Parce qu'il y a, à mon avis, dans les 70, 72 histoires, n'y a pas que des histoires excitantes. Je serais même très, très, très surpris que quelqu'un trouve toutes les histoires excitantes. Je serais même peut-être un tout petit peu troublé. Parce qu'il y a de tout. Il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont belles, il y en a qui sont pas sordides, parce que j'ai évité, mais très sombres, très tragiques. Il y en a des très violentes, il y en a des drôles. Par contre, ce que je veux croire, c'est que sur les 72 histoires, chacun, chacune d'entre nous ici pourront en trouver quelques-unes excitantes. Mais ce ne seront pas forcément les mêmes pour chaque personne. Il y a d'ailleurs souvent des personnes qui m'ont dit « Ouh là là, il y a celle-là, elles sont super excitantes, mais alors les autres, pas du tout. » Et on m'avait dit l'inverse deux jours avant. Genre les mêmes histoires n'avaient pas du tout fait le même effet à d'autres personnes, selon le genre, selon l'âge, selon les goûts qu'on a. Et ce qui était vraiment mon but. J'avais envie à la fin du livre qu'on puisse se dire « Ah tiens, voilà une diversité à un instant T de sexualité au pluriel de français ou de francophone, avec tout ce que ça a d'assez magique à mes yeux. Cette pluralité, en tout cas, moi, ça a été la grande leçon des entretiens tels que je les ai menés jusqu'à présent, entretiens que je continue à mener d'ailleurs.
Et vous évoquiez l'histoire de la jeune femme, de sa première histoire à 12 ans, qui effectivement est une des plus touchantes. Moi, c'est vraiment une de celles que je retiens. Elle a commencé par vous raconter son plan à trois. Comment, de fil en aiguille, vous arrivez à mener les gens vers quelque chose? Est-ce que vous leur posez une question précise, puisqu'ils n'ont peut-être pas forcément quelque chose à dire là tout de suite quand vous leur abordez le projet?
Non, tout à fait. La plupart du temps, et c'est même très bien quand ça commence comme ça, un entretien commence par la phrase « je suis pas sûr du tout que j'aurai quelque chose à vous raconter ». Et ça, pour moi, c'est parfait. Je me méfie un peu plus des personnes qui arrivent en disant « bon, je viens pour mon histoire », donc qui ont déjà en tête un récit, parce que ça ressemble un peu plus à ce que j'avais commencé à faire par mail, parce qu'au tout début, je n'osais pas faire des entretiens en face à face, je pensais que ce serait compliqué, que des gens se livrent face à moi. Je pensais d'ailleurs que ce serait encore plus compliqué pour des femmes, parce que j'étais un homme, alors je me trompais, mais vraiment sur toute la ligne, parce que d'une part, c'est plus facile à l'oral, à l'écrit, les quelques récits que j'avais reçus étaient très formatés. En fait, les gens se regardaient écrire. Ils se mettaient en scène en train de m'écrire. Ils se relisaient en même temps qu'ils faisaient le récit. Et donc, par définition, j'avais des histoires où j'avais plus du tout à intervenir. Elles étaient déjà faites. À l'oral, je peux me permettre quelque chose de beaucoup plus protéiforme, avec des chemins buissonniers, je le disais. Pour répondre à ta question, par exemple, quelqu'un va évoquer un début d'histoire. Je vais d'abord l'accueillir et l'écrire. Je prends des notes. Je n'enregistre pas pour pas qu'il y ait de traces de l'entretien qui ne soit déjà digéré par moi et anonymisé par mon écriture. Enfin, je sais qu'à titre personnel, j'aurais du mal à laisser une trace de ma voix en train de raconter ma vie sexuelle. Je n'ai pas envie de ça. Donc, je pars du principe que les gens n'ont plus, mais voilà. Je prends des notes. Et je prends des notes sans préjuger de l'utilisation que j'en ferai. Ce qui ne m'empêche pas quand même d'avoir une attitude proactive, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus dans une espèce de passivité totale où les gens parleraient et c'est tout. Contrairement à ce que les entretiens pourraient laisser croire, parce qu'on dirait que c'est des monologues, j'ai fait en sorte que ça ressemble à la fin à un monologue où on n'entend jamais ma voix. Mais en réalité, je pose des questions tout le temps. Enfin, vous me voyez là, à l'instant présent, on a du mal à m'imaginer silencieux, je pense, parce que je suis très, très, très curieux, je suis très, très, très bavard, donc... Oui, en réalité, les gens ne me racontent pas l'histoire d'une traite. Ils commencent quelque chose, puis je leur dis « Attends, ça m'intéresse. Pourquoi tu dis ça? Il y a un truc que je ne comprends pas. » Et donc, en fait, le récit de la personne commence à partir dans des chronologies différentes. On va repartir dans le passé, on va s'arrêter, puis parler d'une théorie qu'on aurait sur la sexualité. Je peux personnellement aussi évoquer des anecdotes personnelles. C'est-à-dire que c'est une discussion. Je crois que d'ailleurs, c'est quelque chose qui... en creux, se ressent peut-être dans les entretiens, à savoir que j'espère justement qu'on n'a pas l'impression d'entretien qui aurait été volé aux gens ou alors qui aurait été passé sous une espèce de fourche codine de l'analyse cérébrale que j'en aurais en disant ça c'est intéressant parce que comme un scientifique, en réalité c'était des discussions où on parle à bâton rompu de sexualité parce que c'est un sujet que je trouve passionnant et pas forcément évoqué de la bonne manière. Ça aussi je pourrais y revenir après. Donc je prends des notes, je réagis, je dis des choses. Pourquoi je dis des choses, c'est pour rebondir sur ce qui m'est dit, mais c'est aussi une manière de prendre un risque personnel, à savoir que quand on fait l'entretien, c'est souvent dans un bar ou dans un restaurant, les gens me livrent des choses qui sont quand même souvent assez rares, c'est-à-dire que des choses que ces personnes n'ont pas évoquées à grand monde. Pour créer ce moment-là d'intimité, il faut aussi qu'ils me fassent confiance. Et pour me faire confiance, il faut parfois que moi, je montre un peu qui je suis. Donc, on part du principe que ce qui est dit autour de la table restera entre nous. je suis très, très, très attentif à ça. C'est-à-dire que il faut que ce soit très clair que, les textes que j'en tirerai seront relus par la personne pour les valider, que la personne pourra s'opposer à la publication si à la fin elle est déçue par l'instantané que j'ai retiré de la conversation, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment que tout soit bordé pour qu'une personne qui se livre à un moment donné ait l'impression de rester en contrôle, au moins en partie, de ce que l'entretien va donner. Pas un contrôle total, puisqu'il y a un moment donné où, en tant qu'auteur, j'interviens, mais quand même, c'est un mélange de contrôle et de lâcher prise. Si je devais comparer ça avec une image qui est peut-être plus parlante, ça serait celle d'un modèle et d'un photographe. À savoir que moi, je prends plein de photos de la personne, c'est ce que j'écris, et je vais garder à un moment donné un portrait que je vais juger émouvant. Ce n'est pas parce que moi je le trouve émouvant que la personne va se sentir mise en valeur par le portrait. Il y a quelques récits d'ailleurs dans l'herbier qui sont parfois très durs à relire pour les personnes. Alors, je vais en citer un autre que moi je trouve très touchant mais très dur, qui s'appelle La Salope. On ne peut pas faire plus clair comme nom parce que c'est une jeune fille qui, quand elle avait 16 ans, est passée pour la salope de service dans non seulement tout son lycée, mais l'ensemble des lycées de la région, parce que grâce à la magie des réseaux sociaux, une photo dénudée qu'on a eu le malheur d'accepter parce qu'un ex a voulu que, puis qu'elle se met à circuler, fait que cette jeune fille, bah, tout le monde connaissait son anatomie dans la région. Ce récit, il est extrêmement dur. Enfin, moi, c'est un des plus durs que j'ai pu écrire. Et en même temps, j'ai eu vraiment envie de le retranscrire de la manière la plus claire possible. Et quand elle l'a relu, bah, je crois que c'était l'équivalent d'une photo très crue. Et elle était jeune quand elle me l'a raconté encore, hein, elle avait 19 ans, c'était donc pas très vieux, et je pense quand même qu'elle se l'est pris dans la tête, quoi. Et donc il y a eu un moment où elle a dû encaisser ça, et après elle m'a dit non mais en fait c'est vrai, tout ce qui est écrit là c'est ça, c'est moi quand même, même si le fait de le voir c'est comme se voir dans un miroir, et c'est comme si elle avait vu qu'elle avait des bleus en fait, parce qu'elle s'en est vraiment pris plein la gueule dans cette histoire. Le fait est que je lui ai fait relire, et que si elle m'avait dit c'est trop dur, je l'aurais pas édité. Il y a d'ailleurs quelques récits que je garde parce que les gens n'ont pas voulu que je les publie. Pas beaucoup, mais 5 ou 6 sur les presque 250 récits que j'ai collectés pour l'instant. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, c'était des auteurs et des amis auteurs. Enfin, on faisait un petit milieu hein, dans la bande dessinée, donc c'est pas qu'on est tous amis, mais on se connaît. Et qui, en fait, en cours de route, après m'avoir raconté leurs histoires, m'ont dit « Non, mais en fait, c'est une super idée, il faut que je l'écrive moi. » Donc, c'était plus un problème d'ego. C'est qu'à un moment donné, ils réalisaient qu'ils avaient des choses qui étaient un matériau riche, ce qui est vrai, et que moi, j'étais en train d'en faire un bouquin. Donc, je comprends. Hein. Ça les questionnait et ils ont eu raison de les garder. J'étais juste un peu vert parce que j'avais fait le récit. J'étais très content de moi. Puis, il y en a des beaux. Il y a des récits que je trouve super. Bon, c'est pas grave. Ils m'ont quand même fait le cadeau de me les raconter. Ne serait-ce que pour ça, c'est super précieux. Je fais une pause pour te donner une chance de poser des questions parce que sinon, je pars dans l'esprit d'escalier dans tous les sens.
J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit jeu de cartes aussi à l'appui pour aider, pour t'aider toi peut-être, ou aider les gens à trouver l'inspiration.
C'est surtout pour rendre les entretiens plus rapides, parce qu'en fait, ce que je décris de prise de notes, etc., c'est souvent des entretiens longs, justement pour laisser à la parole le temps de se déployer. Mais long, ça veut dire 3 ou 4 heures, et tout le monde n'a pas envie de ça, tout le monde n'a pas envie de se livrer pendant 3 ou 4 heures. Enfin, la vérité, c'est que la plupart du temps, si, c'est même trop court, et les gens ont très très envie de continuer à parler. Et ça, je vais y revenir, parce que c'est quelque chose qui a été une vraie surprise pour moi, c'est l'appétence des personnes qui venaient me voir à parler de sexualité. Je pensais que ça serait dur, en fait, c'est pas dur du tout, parce qu'il y a une attente de ça. Je vais y revenir.
Oui, parler de son intimité à un inconnu, c'est finalement plus facile.
Mais parfois. Tout à fait. C'est même pas parfois, je crois que c'est tout le temps. T'as mis le doigt dessus. Je peux du coup aborder ça et après on reviendra aux cartes. Effectivement, moi au début je me disais mais que quelqu'un me parle de sexualité, ça serait quand même un peu fou que ça marche. Mais bon, faut croire que j'avais l'intuition que ça pourrait marcher puisque je l'ai fait. En fait, pour être tout à fait exact, ça a commencé en soirée en demandant à un ami, une amie, en disant et toi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit si je te parle de moments de ta sexualité ou de choses que tu aurais vues. Puis des récits sont apparus et j'ai vu qu'en fait, ce n'était pas très compliqué de prendre un moment, puis de les noter, et puis que les personnes se laissaient faire. Ce n'était pas du tout violent. Par exemple, le tout premier récit fondateur pour moi du projet, c'est celui qui s'appelle « Maison familiale », qui est aussi dans le premier livre, sur une jeune adolescente qui voit une de ses petites cousines, je crois que c'est une petite cousine, en train de découvrir sa sexualité dans une chambre, elle est à part. C'est une scène un peu glaçante, en fait. Enfin, c'est une scène dont on peut avoir du mal à se dire ce qu'on en pense. Quand elle me l'a raconté, moi, j'étais très troublé parce que je trouvais ça à la fois violent, mais en même temps troublant. Enfin, pas troublant, il n'y a pas d'excitation, mais troublant par le côté polysémique de l'histoire. Je pouvais pas me dire qu'il y avait un seul sens. Et je trouvais ça très, très, très riche, du coup. Du coup, d'ailleurs, ça m'a fait comprendre que peut-être c'était ça que je ne trouvais pas dans certains récits, par exemple les récits de Elle, du magazine Elle. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle avec ces récits, si vous êtes un peu lecteur, lectrice de Elle. Bon, moi je suis un fervent consommateur de ce genre de presse parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur la gente féminine et donc de mieux comprendre comment se passaient les relations entre hommes et femmes. Donc je lisais ces choses-là. Mais il y manquait ce côté, c'était presque trop, pas une morale, mais presque trop clair, trop circonscrit. Voilà l'expérience. Maison familiale, pour moi, c'est un récit dont je ne sais pas du tout ce que les lecteurs en pensent, parce que moi-même, je ne sais pas quoi en penser.
Donc, moi, c'est un de ceux qui m'a le plus touché aussi.
Bon, bah, donc, c'est bon, on parle du même sujet ici. Il y a quelques récits qui, moi, m'ont pas traumatisé, mais aussi ou traumatisé dans le sens positif, qui me laissent une marque. Voilà. Je crois beaucoup, là, quel que soit ce que j'écris, au traumatisme. Quand j'écris pour les enfants, c'est aussi pour les traumatiser, comme disait Tommy Ungerer, à savoir leur laisser une marque forte. Ben c'est vrai aussi pour la sexualité. Je me suis rendu compte qu'effectivement, le fait ensuite que je sois un inconnu facilitait la chose. Parce qu'en fait, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû deviner, parce que finalement, je m'en doutais un peu au fond, c'est qu'on a peu d'interlocuteurs pour parler de sexualité. Alors, c'est paradoxal, parce que la sexualité est très, très, très présente autour de nous dans les médias. Ce qui est d'ailleurs aussi une bonne chose, parce qu'on a souvent tendance à commencer en disant on est saturé de sexualité, mais avant de parler de saturation, c'est quand même, moi je pense quand même très positif qu'on ait appris à ce point à parler librement de sexualité. Le problème, c'est qu'en fait on en parle tellement que ça sature tous nos capteurs et qu'on ne sait plus où nous se situer par rapport à ça, en particulier à cause d'une double injonction que j'évoque souvent maintenant parce que je l'ai senti chez les gens. Une injonction au plaisir, qui est celle des magazines, du style « jouissez sans entrave », les 15 manières d'atteindre l'orgasme, donc d'un air de dire « si vous n'atteignez pas l'orgasme, ça craint un peu », les 8 manières de faire une bonne fellation à bon cunnilingus, ce genre de choses. Alors là encore, il y a des choses à prendre dans ces méthodes, c'est super, mais on finit par se dire que si on ne connaît pas les 15 méthodes, si on n'a pas joui 15 fois, si ceci, cela, on n'est pas tout à fait au top. Ça, c'est la première injonction. Et la deuxième injonction, c'est qu'il y a quand même un reliquat de mauvaise conscience par rapport à une sexualité qui irait trop loin. Et en fait, cette ligne invisible, au-delà de laquelle on devient une salope pour une femme, on devient un sale porc pour un mec, elle n'est pas posée de manière très claire. Et donc, on a une injonction à jouir, mais pas trop. C'est ce que j'appelle donc une prise en tenaille, quoi. Et en fait, comme personne ne connaît exactement la limite, on ne sait pas... bien jouir, c'est quoi? Par exemple, typiquement, la question qui est revenue 2-3 fois chez des gens, c'est... parce qu'en fait, ils me posent des questions, comme si j'étais un expert, ce qui n'est pas le cas, mais à force, je sais des choses, mais je ne suis pas un expert. Plusieurs fois, on m'a dit, genre, bon, voilà, moi, avec ma femme, avec mon compagnon, on fait l'amour 3 fois par semaine, je crois que c'est la moyenne, point d'interrogation. D'un air de dire, est-ce que j'ai bon? Est-ce que je suis dans les clous? Et moi, je suis obligé de leur dire, mais c'est à vous de voir. C'est la moyenne si c'est ce que vous voulez faire. Mais ça se trouve, il y en a, c'est tous les jours, puis il y en a, c'est tous les ans. Moi, je m'en fous, en fait. Sauf qu'on sent bien qu'il y a une espèce d'injonction qui consistera à dire qu'il faut que ce soit ni trop peu, ni pas assez, ni trop. Et cette peur d'être en dehors de la norme, elle est très, très, très présente. Et alors, là où elle affecte le rapport à la sexualité dans le langage, c'est que justement, on n'ose pas forcément en parler à ses proches. Alors là, je distinguerai quand même les hommes et les femmes. Les hommes en parlent très, très peu, en moyenne. On ne peut pas en faire une règle absolue, mais en moyenne, les hommes en parlent peu entre eux ou d'une manière qui est plutôt trivial ou pour se marrer en disant « je me la suis tapée, elle était bonne », s'ils sont dans ce vocabulaire-là, celui que Trump défend en appelant ça du vocabulaire de vestiaire, d'un air de dire « voilà comment parlent les hommes entre eux », ce qui est en partie vrai parfois, mais ça dépend des hommes. Ça peut être sur un mode plus pudique, du style « oui, bon, bah, j'ai passé la nuit avec ma chine, mais on dit rien de plus ». Mais c'est très rarement détaillé. Là où un certain nombre de femmes, pas toutes, une fois de plus, attention aux règles qui seraient tirées de ça, mais un certain nombre de femmes parlent un peu plus entre elles, visiblement, de la question, et sur un mode qui a l'air d'être, somme toute, si ce n'est désinhibé, en tout cas plus clair, plus cru sur les termes, plus cash, peut-être surtout ne cachant pas les échecs. C'est assez rare qu'un mec parle d'un échec de la veille, un échec sexuel. C'est assez rare qu'un mec dise « bon, hier, j'ai débandé ». Enfin, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, de tous mes amis. Jamais personne ne m'a dit ça, quoi. Je crois ne l'avoir jamais dit à des potes, sauf à être très, 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 très à l'aise avec eux, ce qui n'est pas si fréquent. J'ai par contre ouï dire qu'entre femmes, c'est plus facile d'en parler. Mais une fois de plus, ça dépend. Même entre femmes, même entre très bonnes copines, des limites peuvent apparaître. C'est le cas de certains récits, je crois, qui sont évoqués ici, où une interlocutrice va me dire, ben voilà, j'en parle avec mes copines, je suis assez à l'aise pour leur dire que j'aime tel truc, j'aime pas tel truc. Puis à un moment donné, elle a le malheur d'évoquer qu'elle aime bien telle pratique, parce qu'elle est un peu à l'aise ou qu'elles ont bu, voilà. Et d'un seul coup, elle sent qu'elle a franchi la fameuse limite invisible chez ses copines et que les copines se disent, ah ouais, non, quand même pas ça, quoi. Ouais, si t'aimes ça, quand même, t'es un peu une salope. Mais elles le disent pas forcément. C'est plus une espèce de tension. On sent qu'on a franchi la limite. Donc, on se rétracte. Éventuellement, on fait une blague du style « Non, mais je disais ça », d'un air de dire, voilà. Donc, elles vont dans le mode masculin, à savoir plutôt blaguer, d'un air de dire « Tout ça n'est pas très grave ». Sauf que, n'empêche, voilà, quelque chose s'est passé, une limite a été franchie, etc. Et moi, je croyais un peu naïvement, et sans me mettre trop poser la question, que ça serait plus facile, du coup, au moins avec une personne, c'était la personne avec qui on vit en couple, quand on vit en couple, son compagnon ou sa compagne. Il s'avère que c'est même encore pire. Parce que c'est la même chose que ce que j'évoquais avec les amis, à savoir, y a des limites invisibles qui sont celles du goût de l'autre, mais la sanction, si on dépasse la limite, est beaucoup plus forte symboliquement. Imaginons que ça fait 10 ans que je suis avec quelqu'un et enfin, j'ai envie de lui dire que j'ai envie de faire, remplissez le blanc, la fameuse, là je laisse un très très grand blanc, brouette chinoise ou le truc avec les hamsters, enfin, imaginez ce que vous voulez. Et que votre compagnon, compagne, c'est malheureusement sa limite personnelle. Mais au-delà même de sa limite personnelle, c'est le truc qui la dégoûte un peu. D'ailleurs, de dire non, quand même pas ça, quoi. Le problème, c'est que c'est tellement intime, un fantasme, et ça peut tellement révulser quelqu'un d'autre, à l'inverse. Prenons le cas de la scatologie, des choses comme ça. Ça peut vraiment être le jour et la nuit chez une personne, excitant d'un côté, révulsant de l'autre. Là, le risque, il est très très fort, parce que ça fait 10 ans que vous êtes avec la personne, et la personne découvre qu'en fait, au fond, vous êtes la personne qui aimerait qu'on lui fasse la brouette chinoise, le hamster, blablabla. Et donc, on risque de perdre l'affection de la personne qui compte le plus au monde. Donc, en réalité, on se rend compte qu'il n'y a jamais de bon moment pour en parler. Parce que je ne vous dis pas, si le premier rendez-vous mythique, vous dites, bon, allez, on va être un peu franc. Moi, j'adore la brouette chinoise avec des hamsters. Bon, vous risquez de faire fuir la personne aussi, parce que c'est un peu cash.
Ou pas.
Ou pas, oui. Alors, peut-être que justement, ça mériterait d'être un peu plus cash. D'ailleurs, il y a des gens qui le font maintenant, qui me disent, moi, je n'ai plus envie de perdre de temps, je dis tout de suite. Mais au risque que des fois, ça soit un peu dur à accepter, parce qu'en plus, les gens évoluent. Il y a un exemple qui est celui de la dernière histoire du bouquin où un homme me parle de son couple en parlant d'une union libre. Ben, ce n'est pas venu tout de suite dans leur couple. Ils ne se sont pas rencontrés en disant « Est-ce qu'on sera en union libre ?» Ils ont été en union classique, ce que j'appelle classique, c'est monogame. Puis, en cours de route, est venu sur la table ce sujet et puis ils ont fini par être. Voilà. Mais peut-être que pour ce couple, il fallait mieux pas l'aborder trop vite. Inversement, quelqu'un, ça c'est pas dans les entretiens, mais ça m'a été dit, une jeune femme qui justement cherchait à vivre en union libre me disait, ben, y a des mecs qui ont fui dès le départ parce qu'elle leur a dit. Donc on voit bien qu'en fait, quand il s'agit d'affection, de sentiments amoureux, on se met à avoir encore plus peur d'être jugé et que donc effectivement, le compagnon, la compagne de toujours peut parfois, parce qu'il y a des gens qui, heureusement, qui arrivent à se parler de tout, mais la plupart du temps, j'aurais malheureusement tendance à dire, ne peuvent pas parler de leurs fantasmes les plus fous. Et il se trouve que dans ce cas-là, ils peuvent m'en parler à moi. Alors qu'il suit du coup le réceptacle heureux de ça, parce que tu le disais, il y a quelque chose de l'ordre du voyeurisme, accepter de faire un bouquin comme ça. Moi, j'accepte parfaitement que si je dois faire une petite liste de mes perversions, le voyeurisme en est une. Un voyeurisme bienveillant, qui n'est pas visuel dans le cas présent, qui est un voyeurisme cérébral. J'adore l'idée d'être la petite souris qui entend les récits qu'on ne devrait pas entendre. Enfin, ça, c'est vraiment un truc que j'ai depuis que je suis gamin, et pas que sur la sexualité. Un scénariste, c'est ça, hein, c'est qu'on voudrait connaître tout sur tout, être dans les coulisses de l'histoire et savoir ce qui s'est passé au moment des accords de Yalta, comme dans la chambre entre deux personnes et savoir ce qui s'est passé. Donc oui, j'assume complètement ce côté voyeur. Et il se trouve que les gens, sans parler forcément d'exhibitionnisme, ont envie de partage et ont envie de se sentir moins seuls dans ce qu'ils sont en train de vivre et avec des choses qui parfois sont très banales. Ce que je veux dire par là, c'est que les secrets entre guillemets qui me sont donnés ne sont pas forcément des secrets de folie, mais c'est l'angle mort de la personne, la difficulté qu'elle aura avec tel ou tel sujet. Autre exemple pour peut-être évoquer ce que je dis là, une jeune femme qui me parle de sa vie sexuelle qui était somme toute assez spectaculaire. Donc moi, je prenais des notes, de temps en temps, je piquais un phare, j'allais dire je vais commander une carafe d'eau histoire de faire baisser un peu la pression. Et puis, à la fin du récit, elle me dit bon, il y a quand même un truc dont je n'ai pas parlé, mais j'ose pas trop. Et alors moi, je me disais mais qu'est-ce que ça va être, quoi ? J'étais vraiment en train de partir, en train de dire oh là là, mais un truc avec des extraterrestres, c'est pas possible. Et en fait, non, c'était la masturbation. Parce que pour cette femme qui, justement, avait accès à une liberté assez folle de sexualité avec multi-partenaires, des lieux incroyables, etc., l'idée de se donner du plaisir seul, c'était déjà quelque chose de l'ordre d'un aveu d'échec. Alors que moi, je pensais que la masturbation faisait partie des sujets qui, justement, étaient rentrés un petit peu, si c'était dans le domaine public, en tout cas, qui avaient été très, très, très évoqués dans beaucoup d'articles de presse. Eh bien, oui et non. En fait, c'est très abordé. Ça ne veut pas dire que tout le monde le vit de la même manière. Et là encore, c'est très différent entre les hommes et les femmes. Et dans son cas, l'idée de se donner du plaisir seul, c'était honteux. Et donc, elle l'abordait avec énormément de difficultés. Et ce genre d'histoire, moi, ça a été un révélateur vraiment de me dire, mais donc, en fait, même quand on a des profils très différents et des goûts très différents, on est quand même tous pareils sur le fait qu'on a peur de dépasser cette limite et on a peur de ne pas être normal. Même des gens qui ont des vies sexuelles exubérantes, même ces gens-là, sur tel ou tel sujet, peuvent se sentir jugés, en fait. Je te redonne une autre pause possible.
Non, je vais en profiter pour, justement, on a donné quelques exemples de cet herbier sauvage. Oui. Est-ce que tu aurais envie d'en lire une ?
Oui, pourquoi pas, oui.
Il y en a une qui m'a beaucoup touchée, et en plus, elle est très courte, donc c'est très
ça
bien.
Bah, c'est chimio, c'est ça ?
C'est chimio.
Oui. Bah oui, de fait...
Et pour dire justement que ce n'est pas qu'une histoire de sexualité, c'est aussi une histoire d'amour.
Il se trouve que là, il y en a, voilà. Et c'est un des rares exemples d'entretien que j'ai pu avoir avec une personne âgée, parce qu'en fait, c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi au départ, c'est d'ouvrir le champ des entretiens à des gens en dehors de mon cadre direct, et qui sont souvent des gens de 30-40 ans, plutôt lecteurs de livres, plutôt blancs. Plutôt hétéro quand même. Et en fait, j'ai quand même essayé d'ouvrir ça et d'avoir le plus possible de diversité. Voilà un exemple. Donc ça s'appelle Chimio. Ça commence toujours par un petit descriptif. Ici, un homme de 70 ans rencontré sur le parvis de l'hôpital Bichat à Paris en juin. Ça va peut-être te paraître fou, mais pendant toute ma vie de couple, je n'ai pas arrêté de me demander si j'étais vraiment amoureux de ma femme ou si au fond, ce que je ressentais pour elle n'était que du désir. Quelque chose d'égoïste et d'animal. Parce que les deux ont toujours été intimement liés chez moi. J'ai toujours eu envie d'elle, tout le temps. J'ai toujours pu lui faire l'amour à n'importe quel moment. Mais est-ce que c'est ça, aimer quelqu'un ? Ça se réduit à ça ? Eh bien, après toutes ces années de doute, c'est ma chimio qui m'a ouvert les yeux, en coupant complètement ma libido. J'ai alors soudain réalisé que j'étais bel et bien éperdument amoureux de ma femme, que ça dépassait le seul désir sexuel. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça m'a soulagé de découvrir ça. Ça a été merveilleux. J'étais complètement ému quand cette personne m'a dit ça. Déjà, c'était un très beau cadeau qui m'était fait. C'est une personne qui est décédée depuis. Et c'était, moi, j'avais des frissons. Je me disais, bah voilà, là, je tiens quelque chose. J'ai pas besoin. Je serais très curieux que quelqu'un qualifie cette nouvelle d'érotique. Pourtant, elle parle de sexualité. Pourtant, elle parle de quelque chose de très très profond. Et en plus, alors là, à titre personnel. Elle me trouble parce qu'il parle d'un mode de sexualité qui n'est pas du tout le mien. Cette idée que le désir soit constant, soit une espèce de bloc comme ça, et qu'il faille la chimio pour couper sa libido, on vit dans deux mondes différents. Moi, je suis un intellectuel absolu, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que ça passe tout un processus très très compliqué d'analyse, ceci, cela, et au bout d'un moment, ça y est, quelque chose me touche. Donc en fait, c'était doublement instructif de me dire, tiens, on peut aussi vivre la sexualité comme ça. Et puis en plus, c'est émouvant parce que la situation est émouvante, quoi.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez du mal à piquer quelques entretiens comme ça de personnes plus âgées, en tout cas plus âgées que les 30-40 ans.
Ou de milieux socioculturels différents.
Voilà. Oui. Est-ce qu'avec la sortie de cet herbier sauvage, parce qu'il est sorti au mois de mai, depuis, on en a un petit peu entendu parler. Mmh. Est-ce que certaines personnes viennent un petit peu plus facilement vous voir pour vous dire, voilà, moi, j'ai quelque chose à dire et qui ne sont justement pas dans votre milieu socio-culturel ?
Alors, et précisément, c'est sur l'âge que ça s'est le plus ressenti. L'angle mort de mon projet et qui persiste, c'est que je n'accède pas aux non-lecteurs de livres. Ben ça, par définition, le livre a beau être sorti. quelqu'un qui sera, pour faire des résumés très caricaturaux, hein, quelqu'un qui serait de milieu ouvrier ayant peu accès à la culture, parce qu'on peut être ouvrier et lire, mais si je devais faire vraiment des grands, voilà, ces personnes-là ne vont pas être touchées par le livre de prime abord. C'est-à-dire que là, il y aura un travail à faire de ma part. C'est possible, ça m'est arrivé vraiment d'arriver très doucement, de manière périphérique, à parler de sexualité avec des personnes qui étaient de milieux, par exemple, plus précaires ou avec des migrants. Mais c'était rarement frontalement en disant « c'est pour le livre ». Ça ne marchait pas comme ça. Par contre, la bonne surprise du livre, c'est qu'effectivement, j'ai eu des personnes plus âgées qui m'ont envoyé des mails. En fait, il y a eu deux bonnes surprises. Il y en a une, c'est que c'est la première fois que je fais un livre pour lequel je reçois des mails de remerciement. Parce que c'est très rare que quand je fais un livre, on me remercie. Je reçois des mails éventuellement 2 ans plus tard pour m'engueuler parce que la suite n'est pas sortie. Ça, j'en reçois un certain nombre. Genre sur Paco les mains rouges, désolé. Genre sur Satanie, désolé, mais ça y est, on se rattrape. Genre sur Seul, parce que les gamins sont très en attente. Enfin, pas que les gamins, mais... par contre, là, c'est dès la sortie du livre. J'ai reçu... Alors, c'est pas non plus des milliers. Hein, c'est peut-être, je sais pas, 15 mails, mais proportionnellement, c'est assez énorme pour moi. Et dans ces 15 mails, spontanément, des gens qui se proposaient de participer aux entretiens. Il y en a deux que je peux citer, parce que les deux étaient touchants de manière. Une femme de 73 ans qui me dit, bah voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre livre, et moi, j'aimerais bien vous parler de ma sexualité. Et elle m'a donné un exemple, juste un petit exemple de ce que ça pourrait être en évoquant la couleur des yeux d'un de ses amants. Et ce petit exemple m'a fait dire, ok, on fera un entretien le temps que j'aille dans votre ville, parce que on le voit avec les entretiens et ça se passe un peu partout en France, ça demande du temps, je ne peux pas me permettre à chaque fois d'y aller, en plus j'essaie d'être éco-responsable, donc je ne prends plus l'avion et donc ça devient très compliqué. Et je profite d'ailleurs de moments de tournée comme ça autour du livre pour faire des entretiens quand c'est un peu prévu à l'avance. Donc cette dame-là, je vais passer la voir d'ici quelques semaines. Et puis une autre proposition d'entretien, là c'était un homme de 65 ans, dont le nom apparaissait dans l'adresse mail et qui ne se cachait pas, donc j'ai pu le googliser de manière tout à fait veule. Je me suis dit, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble ce monsieur. Et puis j'ai vu que c'est vraiment un cadre supérieur, si ce n'est typique, en tout cas tout à fait bien de sa personne. Vraiment, je veux dire, quelqu'un qui a l'air de rayonner le bien-être si on voit juste sa photo sur Internet. Sauf que ce qu'il me disait, lui, était très différent. Il me disait que ce qu'il avait touché en lisant les histoires, c'est qu'il aurait voulu savoir ces choses-là plus tôt, un certain nombre de choses, en tout cas. Cette diversité, il aurait voulu au moins en avoir un aperçu, parce que visiblement, sa vie sexuelle avait été horrible. Enfin, c'est à peu près les mots qu'il emploie. Et qu'il était dans un milieu où on ne parlait pas de ça, et qu'il avait découvert la sexualité avec le mariage et en croyant que ça allait couler de source, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, visiblement, c'était lié à une souffrance très grande. Et comme il était très pudique, il ne se voyait pas communiquer avec ses enfants, ni ses petits-enfants. Et il pensait qu'il y avait un vrai rôle de sa part à jouer en témoignant de manière anonyme, de manière à ce que ça puisse apparaître dans les livres et de manière à ce que quelqu'un, quelque part, puisse bénéficier de son expérience en disant « Voilà, la sexualité, ça a pu aussi être ça. Et voilà les erreurs qu'il aurait préféré ne pas commettre. Et voilà les choses qu'il aurait préféré savoir. » Et j'ai trouvé ça, là encore, très, à la fois triste, hein, bien sûr, mais très touchant. Parce que c'est quelqu'un dont on sent qu'il a une envie de partage, une envie de don. En fait, ce qui est le cas de tous les gens qui viennent me voir. Il y a quand même un don qui m'est fait, et à travers moi, au lecteur.
Donc si les gens viennent vers vous de nouveau après la sortie de celui-ci, ça veut dire qu'il y aura d'autres volumes.
Oui.
Et vous disiez avoir recensé 250 confidences, je vais dire ça, confidences, j'aime
oui,
bien.
Oui, c'est bien, c'est un bon mot.
Ça veut dire que vous allez continuer votre tour de France du sexe ou
Oui, je compte bien. Alors, je précise que 250 confidences, ça n'est pas 250 personnes, parce que ça pourrait paraître énorme, ça le serait d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est quand je fais un de mes entretiens, c'est un peu différent avec les cartes, peut-être que du coup je peux l'aborder. Un entretien, c'est donc beaucoup, beaucoup de notes et après, il y a un gros travail de ce que j'appelle, moi, de dérushage, comme si je pouvais faire un parallèle avec le documentaire, où on dérush des heures et des heures de films. Moi, c'est ça, je dérush mes notes, qui peuvent être de 20 pages, 30 pages, 40 pages. Et puis, j'en tire des morceaux et je fais un montage. Et des fois, il va y avoir un souvenir d'enfance que je vais décider de mettre à la fin d'un récit. Ou inversement, je vais essayer de respecter une chronologie parfaite, ou au contraire, je vais démonter le récit un peu à la Pulp Fiction, parce que je trouve que ça apporte quelque chose au récit. C'est très intuitif, je ne saurais pas vous dire pourquoi je le fais d'une manière ou d'une autre, mais c'est comme ça que je le fais. Il faut que les gens soient d'accord, mais une fois qu'ils l'acceptent, c'est bon. Et surtout, c'est le moment où je split des récits. que je les sépare. Pourquoi ? Parce que je pourrais simplement me dire, on me fait un entretien, j'en fais un récit qui serait très foisonnant sur la sexualité de Monsieur X à l'instant T. Sauf que ça ne ferait pas un récit très intéressant dans le sens, enfin si ça l'est, mais mon but c'est justement de prédigérer ça avant de le donner au lecteur. Si je donne tout de manière foisonnante, on a quelque chose qui est un peu plus âpre, il faut du temps, il faut rentrer dedans, c'est intéressant sociologiquement, mais ce n'est pas ce que je cherche. Par contre, j'aime bien éclairer les différentes facettes d'une même personne. Je vais donner un exemple. Une femme de 55 ans rencontrée en province qui me raconte une histoire autour du suicide d'un de ses amants. Cette histoire, je l'ai trouvée très forte. J'en ai fait un récit qui, je crois, n'est pas dans ce livre-là. Mais la même personne me raconte, et là, je crois que c'est dans ce livre-là, me raconte qu'elle a une maladie qui fait qu'elle est en sursis et qu'elle pourrait tout à fait mourir du jour au lendemain et que ça affecte sa sexualité, par définition. Affecter, peut-être pas le mot, en tout cas, ça a un impact sur sa sexualité. Et ça la rend... Elle est boulimique de nouvelles expériences parce qu'elle se dit, en gros, je peux mourir du jour au lendemain, donc autant y aller. Alors, le corps tient plus ou moins parce qu'elle est quand même usée par la maladie, dans le cas présent, surtout par la maladie. N'empêche qu'elle a envie d'aller jusqu'au bout de cette expérience. Bah, j'avais l'impression que c'était deux histoires fortes et que les mélanger, même si c'était vrai, que c'était la même personne, risquait de faire un récit trop foisonnant. Donc j'ai coupé en deux. C'est un parti pris. Il est tout à fait subjectif. On peut me le reprocher, mais c'est ma façon de faire le truc. Il peut m'arriver de le faire aussi pour protéger l'anonymat de la personne. Parce que quelqu'un qui vient me voir, souvent, et ce qui est normal, va un peu en parler autour de soi, en disant genre, oh, bah, je vais voir Velman, je vais faire l'entretien, c'est rigolo. Bon. Et puis, va raconter à un moment donné une histoire bien connue de ses amis, que j'appelle de manière, maintenant c'est devenu une espèce de gimmick, chez moi j'appelle ça l'histoire du costume d'ours, qui n'existe pas, mais j'ai imaginé que ça soit ça. Une histoire qu'on raconte à Noël quand on est un peu bourré, du style, ah, puis hey, Michel, raconte ton histoire avec le costume d'ours. Bon, on raconte, c'est rigolo. Sauf que moi, bon, on me la raconte, elle est peut-être intéressante, mais je pose des questions que la plupart des gens ne posent pas. C'est quand même très rare qu'on interrompe Michel en train de raconter son histoire du costume d'ours en disant « Mais est-ce que tu as joui ? Combien de fois ? Comment ? Quelles sensations tu as eues ? Est-ce que c'est avec telle personne ? Comment ?» Enfin, moi, je pose énormément de questions pour vraiment avoir une idée globale de la scène. Et il peut se passer que dans ces choses je ne peux pas dire que je les extirpe à la personne, mais que la personne ne s'attendait pas à déballer, il y a des choses plus intimes, des choses qui ne devaient pas se savoir. Et si j'ai le malheur de livrer l'anecdote du costume d'ours, que certes, la majorité du lectorat ne verra pas qui elle concerne, mais 5 personnes, 2 personnes, 1 personne peut se dire cette histoire, je sais qui c'est Michel. C'est mon pote, je sais. Et que je me rends compte que dans l'histoire, il est question de ma femme, alors que ça, ce n'était pas prévu par Michel que ça se sache, ou qu'il y a un truc qui est intime que Michel ne révèle pas d'habitude. Eh bien là, il y a un problème. Et moi, je ne veux surtout pas qu'il y ait de problème avec les gens qui me parlent. Donc, ce que je ferais peut-être, c'est que je prendrais l'histoire du costume d'ours qui, au demeurant, est intéressante et j'en fais un récit. Mais ce que j'ai extirpé, j'en fais un autre récit. Et celui-là, je le cloisonne complètement en changeant non seulement le nom du personnage, de toute façon, je change tous les noms, mais en changeant encore plus son apparence, éventuellement en changeant un peu son âge, ce que je fais peu d'habitude, en changeant complètement sa profession. Donc, ce jeu de déguisement que je donne un peu à chacun de mes personnages, qui est un jeu que j'ai avec les interlocuteurs qui viennent me voir, je les maquille, en fait. Je le fais encore plus. Donc, l'histoire du costume d'ours, c'est pas grave, Michel l'assume. Mais les détails que j'en ai tirés, qui peuvent peut-être m'intéresser et faire un récit à part, je le sépare et j'en fais un autre récit, peut-être plus grave, peut-être plus touchant, qu'importe. Mais qui sera, quoi qu'il en soit, différent. D'où les 250 récits. J'ai fait un très long détour pour dire oui, je continue. Parce que moi, ça me passionne et que j'ai l'impression, de toute façon, que je pourrais faire ça toute ma vie et apprendre encore des choses sur la sexualité. Tant que je ne me lasserai pas du temps passé avec les gens. Mais j'ai envie de dire, on ne peut pas s'enlacer, en fait. Bonsoir. On ne peut pas s'enlacer parce que, quand je le disais tout à l'heure en marrant, en disant, des fois en début d'entretien, je vais me dire, oh, encore un plan à trois. En vrai, ce n'est pas possible. Parce que c'est comme si, quand quelqu'un me disait, j'ai fait l'amour, je disais, oh non, encore l'histoire du mec qui a fait l'amour. Quoi. Non, parce qu'il n'y a pas une façon de le faire. Surtout, il n'y a pas une façon de le raconter. Et qu'on peut raconter la même expérience, presque, j'allais dire, avec le même timing, et ce ne sera pas dit de la même manière. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, ça m'est déjà arrivé, et ça m'est arrivé avec les cartes, et donc je vais pouvoir y revenir, c'est quand des couples sont venus parler ensemble. Parce que donc je fais des entretiens, c'est plutôt individuel, c'est souvent long, un peu trop long maintenant, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui sont intéressées, donc j'essaie de faire des sessions plus courtes, et pour ça, j'ai inventé un système de cartes C'est donc, je suis un peu une sorte de Madame Irma du cul, parce que donc j'ai mes petites cartes là, puis je dis aux gens, venez à ma table, et puis ils tirent trois cartes, et puis derrière les cartes, il y a une question sur le cul, enfin une question sur la sexualité. Et les gens disent ce qui leur vient à l'esprit avec cette question, c'est plus ou moins long, c'est plus ou moins sincère, c'est plus ou moins intime, on s'en fout, parce que c'est pas très long, au final c'est pas très long, c'est entre 10 minutes et une demi-heure. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans des vernissages, dans des trucs autour de Professeur Cyclope, la revue numérique dans laquelle a commencé l'herbier. Et puis petit à petit, ça s'est détaché. Je n'ai plus vraiment eu besoin de vernissage et je le fais à part. Et dans ces cas-là, ça pouvait être que j'étais dans un coin avec ma table. Ce n'est pas complètement clos pour que les gens se rendent compte que ça se passe bien, que je ne suis pas en train de ricaner comme une hyène ou de faire peur. Un peu comme ici, j'espère que si les gens passent, ils peuvent se dire « Ah bah oui, ça a l'air sympa ». Donc c'est assez loin pour qu'on n'entende pas ce qui est dit. Donc je suis dans mon coin, je discute avec les gens, et là, des profils différents apparaissent, dont des gens qui n'ont pas de sexualité, et qui viennent me voir avec un air de défi du style « Moi, je serais bien passé, mais j'ai rien à te dire parce que j'ai pas de vie sexuelle ». Et j'en profite pour leur dire « Eh ben, figure-toi que ça m'intéresse ». Là, je les alpague, et on peut parler de leur soi-disant non-sexualité, parce qu'on peut ne pas vivre de sexualité et avoir un avis sur la sexualité, on peut avoir des fantasmes, on peut ne pas vouloir de sexualité, enfin, il y a une infinité de façons d'en parler. Et c'est là aussi que j'ai eu des couples. Et alors là, ce qui était intéressant, de fait, c'est des moments où ils tiraient des questions. La meilleure expérience, c'était ça. Un couple qui vient d'abord à deux, ils tirent les mêmes questions, ils y répondent ensemble. Puis, comme je n'avais pas grand monde ce jour-là, c'était l'après-midi, ça ne marche pas l'après-midi, je ne le ferai plus, ils sont venus l'un après l'autre. Et alors là, autre son de cloche, quoi. Parce qu'ils racontaient les mêmes choses, mais cette fois-ci, il n'y avait plus ce jugement de l'autre en train de m'écouter. Et ça a donné lieu à un des récits que j'aime beaucoup de ce bouquin, dont le nom est, je ne suis pas sûr du nom, c'est quelque chose comme, c'est sur une femme qui parle de son plus grand fantasme, et son plus grand fantasme, c'est d'avoir un bébé. Et pourquoi elle n'osait pas dire ça devant son copain ? C'est qu'ils étaient ensemble depuis pas si longtemps, et que ce qu'elle essaie de m'expliquer, et qu'elle a pris le temps de m'expliquer, parce que j'étais là pour ça, c'est que c'était pas vraiment pour le fait d'avoir un bébé. Ce qu'aurait entendu son copain immédiatement. Il se serait tout de suite dit « Quoi, tu veux un môme, mais tu m'avais pourtant dit que non ?» D'ailleurs, c'est ça.
Toute une vie.
Alors, vous allez voir d'ailleurs que j'ai tout, enfin que tout est faux dans la présentation. Toute une vie. Une femme rousse de 22 ans rencontre à Cherbourg, à la terrasse du Café de l'Étoile, à 15h en juin. Son regard incisif et le ton extrêmement posé de sa voix contrastent avec la rondeur presque enfantine de son visage. La description est relativement juste, le lieu pas du tout, c'était pas du tout à Cherbourg, bon bref. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Mon seul vrai fantasme, il va te paraître trop bizarre, c'est sans doute pas du tout un truc que tu pourrais imaginer, je t'assure. En fait, mon fantasme le plus fou, c'est de faire un bébé. Parce que moi, tout ce qui est jeux de rôle, les machins de domination avec des costumes ou je sais pas trop quoi, ça m'excite pas du tout. Ce qui m'excite, c'est l'amour, le partage avec l'autre. Et avoir un enfant avec quelqu'un, c'est le plus haut degré de ce partage. Le fait qu'une relation sexuelle puisse potentiellement aboutir à ça, c'est essentiel pour moi. Et je te parle vraiment d'une excitation sexuelle, d'un fantasme, et pas d'un désir réel de maternité. J'ai déjà pratiqué une IVG, je sais l'effet que ça fait, alors c'est bon, je peux t'assurer que je fais bien gaffe à prendre la pilule. Il n'empêche que quand je fais l'amour avec mon copain, même quand on se protège, j'adore jouer avec cette idée de bébé pendant qu'il me pénètre, surtout au moment de l'orgasme. Penser que cet acte sexuel pourrait potentiellement me faire avoir un enfant de lui, ça m'amène à jouer encore plus fort. À ce moment précis, dans mon esprit, avoir un enfant, ce serait comme un orgasme qui durerait toute une vie. Alors, on voit bien qu'elle a insisté beaucoup sur potentiellement, d'une certaine manière, blablabla. Son pote, il se serait arrêté à « tu veux un bébé ». Et c'est tout. Il n'aurait pas pu entendre le reste parce qu'on est humain. C'est ce qui lui aurait fait peur, en priorité. Et alors que lui, quand je l'ai vu tout seul, il était sur un mode un tout petit peu plus « ouais, j'ai connu des nanas ». Enfin. Il se mettait un peu plus en scène, en fait, à certains égards. Peut-être parce que j'étais un homme, peut-être parce qu'il était jeune, et que c'est encore un jeu de posture qu'on fait peut-être plus quand on est jeune, ou c'est peut-être simplement son caractère. Alors que sa copine, j'avais l'impression, à tort ou à raison, qu'elle était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sincère. Et pour la petite histoire, dans les histoires de couple comme ça, il y en a une qui était assez drôle aussi. Parce que je propose aux gens de tirer une carte, mais ils peuvent aussi la reposer, ils peuvent ne pas y répondre, ils peuvent en changer, enfin, tout ça est très, très, très informel. Et donc ce couple vient, il tire des cartes, je vois qu'elle en tire une, puis elle la repose en me regardant avec un sourire. Moi, l'air de rien, je mets la carte de côté en me disant « mais qu'est-ce que c'était quoi ?» c'est forcément, j'ai envie de savoir. Et donc on dit bon, « ils s'en vont », et à la fin je tire la carte en question, je la retourne, il y avait écrit « quel a été votre meilleur amant ?» Bon bah oui, c'est pas de bol. pas de bol, elle voulait pas en parler devant lui. Mais elle a bien fait. Je veux dire, on peut tout à fait être avec quelqu'un et c'est super et c'est pas le meilleur coup de notre vie. On n'est pas obligé de rester avec le meilleur coup de sa vie. D'ailleurs, des fois, c'est même pas du tout constructif. Donc voilà le genre de choses où effectivement, ce que je disais sur la sincérité, quand des couples sont venus me voir, c'est possible. J'ai aussi eu des amis qui venaient ensemble pour se monter le bourrichon. Un peu, j'allais dire, je compare souvent les entretiens de l'herbier, vu de l'extérieur pour des gens qui ne l'ont pas fait, quand on est ado et qu'on monte au plongeoir de 10 mètres. On se dit, ouais, on y va, ouais, d'accord, allez. Puis une fois qu'on est en haut, des fois, on est un petit peu pétochard et tout. Puis des fois, d'ailleurs, on recule. Puis des fois, on saute. En vrai, c'est beaucoup plus facile que le plongeoir de 10 mètres. Hein, je vous le dis tout de suite, parce que je me suis pris des gros plats du plongeoir de 10 mètres. Je ne le ferai plus. Je ne crois pas qu'on se prenne de plats avec l'herbier. Mais il est arrivé. C'est d'ailleurs une histoire que je veux relater dans un prochain livre. Que quelqu'un fasse demi-tour. Et en fait, c'était très touchant. Et j'ai manqué d'à-propos. Et je m'en suis voulu. Et c'est ça que je vais essayer de mettre dans le récit. Une jeune femme, je lui explique tout, j'essaie vraiment de faire en sorte que tout soit super clair, et je crois que ça l'est. Elle tire les cartes, elle réfléchit très 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 longtemps, grand silence, puis à la fin elle dit je peux pas. Et je sens qu'en fait elle est tétanisée, quoi. Et moi, à part lui dire c'est pas grave, je savais pas quoi réagir, comment réagir à ça. Donc elle est partie, et c'est après que j'ai compris ce que j'aurais dû dire et comment j'aurais voulu le formuler, et du coup je me suis dit je vais en faire un texte. Je vais dire, voilà, d'habitude, je ne me mets pas trop en scène, quoique, dans le bouquin. Dans les futurs, il y a quelques moments où je vais pousser un peu, dont celui-là, où en fait, ce que dira l'interlocutrice, ça sera vraiment deux, trois phrases, c'est « je ne peux pas ». Et par contre, ce que j'aurais voulu lui dire sera plus long. Je rebondis sur le fait que je me mette en scène. Au tout début, je voulais vraiment des monologues, presque sans indication du tout de moi en face. Et puis, mon éditrice m'a dit, en fait, on aimerait en savoir plus sur comment toi, tu te comportes pendant l'entretien, parce que c'est quand même très mystérieux. Tu ferais genre comme ça, t'es un pur esprit, alors qu'on te parle de cul pendant 4 heures, pas à nous, quoi. Enfin, et en plus, je leur expliquais que des fois, j'étais allé dans des milieux un peu impossibles pour aller faire ma collecte. Et je racontais ça avec beaucoup de plaisir, je reconnais, parce que, entre autres, je me suis retrouvé quand même dans ce que j'appelle à chaque fois mon orgie suisse, parce que c'était tellement fun. J'étais invité dans une soirée privée où, pour justifier ma présence, j'ai servi des flûtes de champagne et des petits fours à des gens qui, quand même, somme toute, étaient là pour niquer, quoi, soyons un peu clairs. Et donc, c'était complètement surréaliste, parce que j'étais là, j'étais le seul habillé quasiment de la soirée. En plus, je ne l'ai pas évoqué exactement comme ça dans l'histoire, parce que j'ai changé de lieu, etc. Mais pour tout dire, quand ça s'est passé, c'était une fête de Noël libertine. Donc, en plus, les gens avaient des costumes. Honnêtement, c'était, j'en rougis encore tellement je me sentais trop pas à ma place, quoi. Mais c'était hyper drôle et j'ai vu des gens vraiment sympas qui sont venus voir dans le fumoir pour évoquer ce qu'ils avaient, pour évoquer ce qu'ils avaient à raconter et à partager, quoi. De même, j'ai été dans des clubs fétichistes parce que des gens que j'ai commencé à côtoyer à Paris m'ont dit « Mais allez Fabien, t'es capable et tout. » Puis moi, bon, d'accord. Alors là aussi, c'est pas évoqué tout dans l'histoire, mais je me suis quand même donc retrouvé dans un magasin pour acheter le costume parce qu'il y a un code vestimentaire à l'entrée du club, sinon on est refusé. Donc je me revois en train de faire mes essais de pantalon en vinyle et tout, d'être assez fier de moi en me regardant dans le miroir. Ce que j'essaie un petit peu de faire comprendre dans l'histoire, qui est une histoire que j'ai vraiment rajoutée à la toute fin parce qu'on trouvait qu'il manquait cette présence, le fait que je sois là et que quelque part je ne peux pas être complètement neutre. J'essaie de le faire passer dans ce que j'appelle des didascalies, c'est-à-dire que je ne me fais pas parler, on n'entend pas ma voix, mais je décris ce que je fais. Et c'est une histoire qui est vers la fin, alors je ne sais plus son nom, c'est sur une histoire de domination. Parce qu'en fait, ça venait de m'arriver genre une ou deux semaines avant le moment où on bouclait le livre et je me suis dit c'est trop parfait. C'est trop exactement le genre de récit qui manque là-dedans. À savoir, je peux le raconter vite fait. Hein, donc je suis dans ce club fétichiste. Donc les gens sont habillés cuir, vinyle, latex, nus, des relations dominant-dominées, somme toute assez soft par rapport à ce qui peut se faire dans le métier, entre guillemets, ou dans ces milieux-là, parce que j'ai vu des choses beaucoup plus trash après. Là, on sentait que c'était une soirée initiation, donc ils étaient gentils. C'était assez tranquille. Et donc, je vais commencer à discuter avec la personne qui est au bar, la serveuse, qui est à moitié nue, quoi. Donc, il faut déjà que je fasse abstraction de ça en disant genre, Fabien, tu es là pour ton travail, et que je l'explique à ma femme ensuite. Et puis, elle finit par m'expliquer qu'elle est là contrainte, parce qu'en fait, son dominateur lui a demandé d'être là pour le service, mais qu'elle a un vrai métier à côté, et qu'elle devrait y être ce soir. Et donc, elle était un peu énervée, d'ailleurs. Et donc, on discute et tout. Puis moi, je dis, mais enfin, quand même, donc vous êtes contrainte d'être ici, mais vous ne voulez pas. Puis elle dit, oui, c'est comme ça. De toute façon, dans la vie, on est dominateur ou dominé. C'est comme ça. Toi, t'es quoi? Alors moi, je fais genre, alors je m'élance dans une espèce de long discours sur ça dépend du moment, état d'esprit, sensibilité, humeur, enfin bon, et puis je m'enfonce. Puis elle dit, oui, enfin bon, bref. En gros, t'es dominé ou t'es dominateur, c'est comme ça. Moi, je suis dominé. Donc il m'a dit d'être là, je suis là, et puis c'est tout. Alors moi, le temps que je digère ce truc, donc je continue à déambuler dans la soirée avec mon verre de coca, genre mais incroyable et tout. Bon, puis j'assiste à un certain nombre de scènes. Et puis je retombe sur cette femme-là, qui a quitté le service, qui est dans un fauteuil Louis XV, à poser comme ça, et elle se fait lécher les bottes par un dominé soumis clair. Enfin, je veux dire, la caricature du soumis avec sa cagoule noire, avec son côté très plaintif. Enfin, c'est un soumis, quoi. Maintenant, ça y est, je les repère. Hein. Là, en tout cas, on ne pouvait pas se tromper. Et alors moi, je me dis, non, mais bah, alors là, quand même, si ça, c'est pas un petit peu un comble. Donc, je viens la voir, puis je dis, bon, bah, pas à moi, quand même. Vous m'avez dit, on est dominant ou dominé, et puis là, vous faites un peu tout et son contraire. Donc, elle me chope par le col pour me faire comprendre, parce qu'il y avait beaucoup de musique. Elle me dit, non, mais si tu crois que j'ai choisi ça, c'est, je suis en train d'humilier ce mec parce que mon dominateur m'a demandé de l'humilier. Mais moi, fondamentalement, ce type, j'en ai rien à foutre, quoi. En plus, il lèche comme un con, quoi. Et puis le type, oui, c'est vrai, je lèche comme un con, punis-moi. Puis elle dit, tu crois que j'ai que ça à foutre? Donc la scène était sensationnelle parce que j'étais dans une espèce de théâtre à la Fellini. Donc la scène était presque plus intéressante que le récit, ce qui est assez rare. D'habitude, ça se passe dans des bars, hein, je vous le redis. Mais là, deux ou trois fois, effectivement, parce que le sujet m'intéresse, parce que je suis allé en immersion, comme j'aime à le dire, ça valait la peine que je me mette un tout petit peu plus en scène, ce que j'ai fait à deux occasions.
Donc j'ai une toute dernière question avec une réponse plutôt courte.
Oui, oula.
L'herbier sauvage, est-ce qu'on peut expliquer un peu le titre ?
Ben parce que j'avais envie que ce soit une promenade buissonnière où on collecte des choses qui ne sont pas forcément... L'herbier sauvage, ça me fait penser aux cabinets de curiosité. Les cabinets de curiosité, ce n'est pas une science exacte. On n'est pas dans un côté, on va tout analyser sous un scanner. C'est une sorte de... Enfin, je pense que vous avez une représentation mentale, peut-être, du cabinet de curiosité. C'est vraiment l'idée qu'on va avoir un coquillage par-ci, une plante par-là, une fougère, une plante séchée. J'avais envie de ça, que chacune des histoires puisse être et sa propre valeur, mais qu'on ne soit pas en train de se dire on peut les graduer, il y en a des meilleures, il y en a, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y en ait une de meilleure qu'une autre. On peut être plus ou moins touché. Et j'espère qu'à chaque fois, dans les 70, 72 histoires, il y en a au moins 10, 15 qui vous toucheront et ce ne sera pas les mêmes que les autres. Voilà à peu près l'origine du mot.
Et on rappellera qu'une trentaine d'histoires ont été illustrées par...
Avec brio.
Oui, par la talentueuse Chloé Cruchaudet, pardon.
Le prochain, si tout se passe bien, serait David Prudhomme, qui est un Bordelais. Donc je vais être amené à repasser à Bordeaux avec grand plaisir. C'est un auteur hyper talentueux. Le troisième... contractuel, parce que je suis sûr d'en faire trois, ça serait, je pense, avec une femme à nouveau. Je tenais à ce que ça soit une illustratrice la première fois pour équilibrer le fait que quoi que j'essaie de faire et quelles que soient mes intentions qui se veulent féministes, je reste un homme. Donc tous les récits sont passés par un filtre qui est masculin, que je le veuille ou non. Donc je trouvais bien que les illustrations soient faites par une femme. Maintenant, à un moment donné, il faut bien que j'assume quand même que bon, bah, si j'ai un illustrateur qui est bon, je vais le faire avec un illustrateur. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette crainte que je le veuille ou non, parce que je sais qu'il y a on a tous des angles morts, un biais puisse être posé par le fait que je sois un homme. Ce qui me fait moins peur, c'est que j'ai eu beaucoup de retours positifs de femmes. Donc a priori, c'est que je ne dois pas être complètement hors des clous par rapport à ce que j'essaie de transmettre.
Cette année est donc parue chez Métamorphose, mais on peut juste dire en deux mots sa petite histoire un peu chaotique.
Un peu rocambolesque. En fait, c'est un album qui a une deuxième chance. C'est rarissime dans la profession, donc je ne peux que vous engager à y jeter un œil. Il était paru sous forme de diptyque avorté chez Dargaud. Donc un diptyque, c'est deux albums et il s'arrête au premier parce que ça n'a pas assez de succès, parce que plein de choses qu'on peut difficilement expliquer, mais bon, ça n'a pas marché. Et pourtant des très bons retours de lecteurs. Donc j'étais surpris par les faibles ventes et la proportion de bons retours. Un peu comme pour l'herbier, j'avais des mails, beaucoup de mails en fait, par rapport aux ventes, de gens qui disaient « mais quand est-ce qu'il y a une suite ?» Ça a été su par l'éditrice Clotilde Vue et une autre éditrice qui est Barbara Canepa, qui sont à la tête de la collection Métamorphose, et qui nous ont dit au Kirasco et à moi, on vous donne une autre chance, on rachète les droits du premier tome, on vous paye la création du deuxième, et on repense le livre. Et pour moi, c'est presque un cas d'école de voir les deux bouquins et de les comparer, et de voir à quel point il y en a un qui est raté. Pas le contenu, même s'il a été amélioré entre-temps, mais la forme, la façon de le penser, le diptyque, tout était à côté de la plaque. Et un autre qui, pour moi, est un vrai objet pensé qu'aurait dû être Satani depuis le début. Pour les lecteurs qui achètent un tome 1, c'est un très, très mauvais signal d'arrêter sur le 2, parce que du coup, on n'a plus du tout envie d'acheter de tome 2, puisqu'on se dit, si c'est pour me faire entuber, je vais attendre que le deuxième sorte. Or, il n'y a pas de deuxième s'il n'y a pas de premier qui s'est vendu. Donc j'étais assez furax en fait qu'on s'arrête au premier album. Mais là, c'est mieux, l'album est complet, il y a toute l'histoire, j'en suis très fier. Et surtout, ça pète, quoi. Vous pourrez juste feuilleter. Il y a des couleurs incroyables, complètement fluo, délirantes. En très rapide quand même, l'histoire, c'est un jeune savant, Constantin, a voulu prouver l'existence de l'enfer grâce à la théorie de Darwin. Donc on pourrait penser qu'il est un peu con. En réalité, il a raison. On peut expliquer l'existence d'un enfer concret grâce à Darwin, en tout cas dans ce livre. Et il disparaît dans une expédition souterraine, suite à un accident. Et sa jeune sœur, qui se fait appeler Charlie, qui s'appelle Charlotte, mais se fait appeler Charlie, va partir à sa recherche avec une poignée de personnes. Et cette descente aux enfers sera en réalité une descente à l'intérieur de la psyché de l'héroïne. Donc on est quelque chose entre Jules Verne et Miyazaki. C'est très, très, très coloré. La faune et la flore de la Satanie ont été bossées, comme ce n'est pas permis, par les Carasquettes. C'est un couple hyper talentueux. Voilà, je vous engage à y jeter juste un œil, puis vous verrez bien si ça vous parle ou pas, mais on peut malheureusement pas en parler beaucoup plus longtemps.
Et c'est très réussi.
Chaque rencontre avec une personne réserve vraiment son lot de surprises. En fait, on s'attend à chaque fois à se dire « Bon, c'est bon, je me fais une petite idée de ce qu'est la sexualité maintenant que j'ai rencontré 60-70 personnes. » Ben non, on peut toujours être surpris. Je dis pas qu'il n'y a pas des entretiens plus intéressants que d'autres, mais il n'y en a aucun qui était inintéressant, juste parce qu'on est face à quelqu'un qui parle sincèrement. Ce qui était moins intéressant, c'est les gens qui étaient trop en posture, voilà, qui se disaient « je dois forcément donner telle ou telle image de moi ». Même si c'est instructif d'un point de vue sociologique, parce que ça se voit. Je ne sais pas comment dire. Je suis scénariste, je connais un peu le... Je sais mentir, quoi, je le fais tout le temps. Donc quelqu'un qui se ment à soi-même ou qui se met dans une forme de posture, ça m'intéresse aussi sociologiquement. Après, le but, c'est pas de mettre cette personne sous un projecteur en disant genre je t'ai percé à jour et regarde l'histoire que je tire de toi et regarde comme je t'ai percé à jour. Ce serait pas très respectueux, ce serait pas forcément productif, mais c'est ce qui fait que je préfère la sincérité. Je préviens ceux qui seraient tentés par l'exercice, ce petit moment de trouble quand on relit le ou les récits, parce que de fait c'est soi sans être soi. Je vous dis comme une photo, hein, je vois bien l'effet que peut me faire une photo de moi. C'est rare que ça me plaise tant que ça, en fait. À chaque fois, je me dis « Ah merde, non, j'aurais préféré cet angle-là où je suis comme ça, exactement comme ça, puis j'ai cet air-là que j'aime bien. » Puis toutes les autres photos, elles me font un peu chier. Et ben, je pense que c'est pareil pour les récits, vraiment. C'est très déstabilisant le moment de relecture des textes, il vaut mieux le savoir. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne expérience. Mais je crois que le vrai bon moment, et là par contre, je n'ai jamais eu de déception, je crois, c'est pendant l'entretien. C'est vraiment un bon moment. Parce que là encore, je crois que c'est pas si fréquent qu'on puisse parler de sexualité. Donc, c'est à bâton rompu. En fait, on se marre, quoi. Enfin, la plupart du temps, on se marre. Même si certains récits sont plus durs que d'autres. Ma limite étant le glauque. L'hyper-glauque, je pourrais pas en tirer un récit. Par contre, je peux parler de choses dures si je vois au moins un rayon d'espoir quelque part. On m'a déjà parlé de viol. Je peux éventuellement, par exemple, en faire un récit si je vois que la personne a commencé à se reconstruire. Et ce serait intéressant parce que l'herbier doit pouvoir aussi parler de ce genre de choses. Mais des choses qui seraient... On serait dans le cœur du maelstrom émotionnel de la personne qui est en train de vivre la chose, où c'est trop récent, où ça n'a pas été digéré. On a le droit de m'en parler, bien entendu. Mais ce n'est pas gagné que j'en fasse un récit. D'ailleurs, je préfère prévenir les personnes quand elles commencent à me parler de ces sujets-là. Parce que je serais mal à l'aise d'en tirer... Il faut qu'à la fin, j'en tire quelque chose... je vais oser le mot, de beau. Et si ça n'est que un champ de ruines, c'est très compliqué. Ou alors c'est ce qu'on appelle l'esthétique des ruines, et je peux quand même en tirer quelque chose de beau, mais enfin, personnellement, il faut que j'y voie un tout petit peu d'espoir. Mais on m'a raconté des trucs pas que marrants, bien entendu. Parce que la sexualité n'est pas que marrante, bien entendu.
J'ai entendu dire, sur les différentes interviews que j'ai pu écouter de toi pour travailler tout ça, tu parlais de Polaris qui est...
Ah oui, oui.
Est-ce que c'est un projet qui va sortir avec Gwen de Bonneval ?
Alors oui, il va sortir et il est issu de l'herbier, donc ça vaut la peine d'en parler parce que... Alors, c'est un titre de travail, Polaris, ça va sans doute changer, mais en fait, voilà... À force d'entendre des choses sur la sexualité, j'ai commencé un petit peu à... Je me suis chauffé, quoi. Je me suis dit, mais c'est bon, je commence à maîtriser le sujet, ce qui est pas vrai, bien sûr, mais je me suis senti plus à l'aise avec ces questions et donc plus à même d'écrire une fiction qui serait érotique ou pornographique. C'est-à-dire qu'autant qu'avant l'herbier, je me disais, j'ai ma vision qui est très vanille, pour reprendre un terme qu'aiment bien justement les milieux interlopes parisiens, pour dire en gros complètement puceau, quoi. Dans l'orgie suisse, il m'appelait Jungfrau. À Paris, il m'appelle Vanille ou alors Monsieur Spirou, pour se foutre de ma gueule. Mais en gros, c'est le type complètement bleu qui débarque et qui sait rien à rien et qui vit dans le pays des bisounours, quoi. C'est un peu ça. Et donc, à force de côtoyer ces milieux-là, et d'y trouver des amis, des gens qui sont maintenant des amis, je me suis un peu décoincé et je me suis dit, mais en fait, c'est bon, je crois que je peux parler du sujet et le faire d'une manière fictive. Et m'est venu... on était en train de sentir que Professeur Cyclope, la revue numérique, allait petit à petit passer d'un rythme mensuel à un rythme beaucoup plus lent. Et puis maintenant, c'est un peu avivoté. Et Gwen allait se retrouver sans boulot. Et moi, je trouve que c'est un dessinateur très, très brillant avec qui j'ai fait Les Derniers Jours d'un Immortel chez Futuropolis, un récit de SF pour les gens qui n'aiment pas forcément la SF, plutôt métaphysique. Et j'avais très envie de rebosser avec lui. Et on passe en revue tous nos projets. Et lui, il avait envie d'une histoire. À un moment donné, dans un de ses projets, il était question d'une histoire de couple sur fond de libertinage. Mais le libertinage était un prétexte. Et moi, je venais d'avoir une idée dont j'étais trop, trop fier. D'ailleurs, j'en suis encore trop, trop fier. Et quand je suis fier d'une idée, je le dis. Parce que j'ai vraiment aucune modestie. C'était de m'inspirer de l'Oulipo. Donc, peut-être que la plupart d'entre vous voient ce que c'est, mais peut-être pas. Donc, ouvroir à livre potentiel, ce mouvement un peu issu du surréalisme, mais où des auteurs et des poètes se donnent des contraintes très très fortes pour créer des livres. La contrainte la plus célèbre, c'est celle qui a donné le bouquin qui s'appelle La Disparition, où en fait il n'y a pas du tout la lettre E. Donc jamais la lettre E n'est employée. Donc, on voit bien que c'est des contraintes quand même qui sont très très compliquées à gérer. En bande dessinée, ça existe, ça s'appelle Loubapo. Ou voir à bande dessinée potentielle, où ça peut être de dire à un moment donné, on fera des BD que silencieuses, ou avec des cases, par exemple avec trois dessins, qu'on interverse dans tous les sens possibles en changeant les dialogues, et ça donne une BD complète. Lewis Trondheim a fait ça, par exemple, très très bien. Et moi, je me suis dit, avec mon esprit pervers, et si, dans les années 50, il y avait eu un cercle qui avait inventé l'ousexpo, l'ouvroir à sexualité potentielle, en se fixant des contraintes érotiques pour inventer d'autres formes d'érotisme et de sensualité. Et donc Gwen a dit d'accord, on fait ça. Et on est parti sur l'histoire de ce cercle libertin mystérieux. Et ce qui a été assez drôle, c'est que, on pourra peut-être terminer là-dessus, c'est que donc, dans ces milieux interlopes que je décris à Paris, alors c'est pas dans des caves et des réunions secrètes, hein, c'est des gens qui s'occupent d'un festival qui s'appelle Érosphère à Paris. C'est un festival sur l'érotisme créatif, ou le tantrisme, le bondage, le SM pour les nuls. Enfin, c'est des ateliers, des workshops. En fait, c'est assez simple d'accès en réalité, si on est ouvert d'esprit et un petit peu aguerri quand même. Parce que j'assistais à des choses, j'étais vraiment trop vanille. Et ces gens-là ont eu une vraie appétence pour le sujet. Moi, je leur en parlais de ce projet en disant, voilà, je ne suis pas libertin, je ne connais pas votre univers. D'ailleurs, eux ne se décrivent pas comme libertins, mais plutôt comme dans l'érotisme créatif. Et je ne connais pas ça. J'invente des jeux. Je suis en train d'y réfléchir, là, avec des règles et tout. Mais je ne sais pas du tout s'ils sont jouables et s'ils auraient pu exister et s'ils auraient pu vous intéresser, ou voire même s'ils n'existent pas depuis 50 ans sans que je le sache, quoi, parce que je suis vraiment un bleu. Et ils m'ont dit, on va te le dire s'ils existent ou pas, et puis s'ils n'existent pas, on va les essayer. Et donc, je me suis retrouvé à être inventeur de jeux pornographiques. Donc après, c'est pour ça que je vous dis, je cloisonne. D'un côté, j'écris pour les enfants. De l'autre, je suis ludopornographe. C'est un nouveau truc que personne ne connaissait avant que moi-même je l'invente. Et ça a donné lieu à des soirées, une fois de plus, complètement surréalistes, que je retournais ensuite chez moi raconter ça à ma femme. Elle disait, tu vas te calmer un peu d'abord, boire un coca. Et moi, j'étais avec mon petit carnet. Ils n'allaient pas forcément très loin dans les jeux, mais quand même, ils commençaient à aller un peu dans... Voilà. Et il y a des jeux qui ne marchaient pas, et il y a des jeux qui marchaient. Et donc, j'ai pu commencer à les intégrer dans le récit. Et Polaris, ce sera ça. Une histoire criminelle sur... Il y a un meurtre dans ce cercle qui va s'appeler le cercle de Circé. Il y a un meurtre, parce que visiblement quelque chose a mal tourné, et une enquêtrice qui elle-même est libertine dans sa vie privée, donc ses collègues policiers ne le savent pas, s'intéresse à ce cercle. Circé, pressent qu'il s'y passe quelque chose qui pourrait l'intéresser, elle, à un niveau personnel. Et en même temps, on a des flashbacks sur Boris, qui est l'homme amoureux de la victime future. Donc dans les flashbacks, sa compagne, mais justement, c'est pas sa compagne, la femme dont il est amoureux est encore vivante. Elle fréquente cette ousexpo, le cercle de Circé. Et lui, pour essayer de regagner son amour, parce que lui, il est vraiment amoureux et il est monogame dans sa tête, même s'il prétend le contraire, essaie de rentrer dans le cercle et de jouer. Et on sait déjà que sa compagne va mourir. Donc on est dans ce double jeu-là, de temps, de littérature, de jeu avec le lecteur. C'est passionnant à écrire, c'est très, 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 très complexe à écrire. D'autant que je dois intégrer les toutes dernières nouveautés de gens qui m'envoient des mails en disant « On a essayé tel jeu, alors il y a un truc super drôle, c'est qu'il se passe ça. » Puis moi, oh, « j'ai plus la place, attendez, il me faudrait 20 pages de plus. » Et ça, si ça se passe bien, ça sortirait en 2018 parce que c'est un 150 pages que Gwen se défonce pour des pages qui sont magnifiques, qu'on peut voir sur son Instagram si jamais vous voulez jeter un œil. Et bon, moi, j'ai de hauts espoirs pour ce livre, comme tous les livres que j'essaie de faire. Je pense qu'il peut être vraiment bien.
Ça sera un one-shot ?
One shot, sauf si il s'avère qu'on crée un nouveau courant porno-ludographe et qu'on me demande d'inventer des jeux. Ce qui n'est pas loin d'arriver déjà, parce qu'il y a une sexologue qui m'a dit qu'elle allait utiliser un des jeux, une nana que j'ai rencontrée pendant le festival de l'Hérosphère, parce qu'il y a aussi des sexologues qui vont dans ces endroits-là, et qui m'a dit tel jeu, je le ferais bien faire à mes patients, parce que ça pourrait peut-être les aider à parler plus. Donc ça se trouve maintenant, ça se trouve le seul truc qui restera plus tard de mon boulot, ça sera ça. Hein. Les gens diront quoi, Velleman, comme la fameuse brouette Velleman. Je serais quand même un peu déçu si on oubliait tout le reste, mais bon, après tout, faut prendre la notoriété où elle est. Hein.
Merci beaucoup.
Merci à vous.